Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Chindani Kambala.
Plus de 5000 combattants issus des groupes armés ont déjà été démobilisés dans 5 provinces du pays à travers PDDRCS en 2 ans et demi. Selon les coordonnateurs de cette structure, tout ceci était possible grâce à l'implication totale du gouvernement de la République. Lancement hier des activités du mois des droits des femmes à Goma par les organisations membres du groupe de travail de lutte contre les violences basées sur les genres. C'était au stade paralympique de la ville où les femmes ont présenté leurs différents produits dans une foire bien colorée. La journée internationale des droits des femmes commémorée le 8 mars 2026 est célébrée en RDC sous le thème Droits garantis, autonomisation durable des femmes et des filles. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU souligne que dans de nombreux pays, la loi continue de limiter profondément les droits fondamentaux des femmes. Les intervenants dans le dialogue entre Congolais d'hier lundi ont évalué la lutte pour la promotion des droits des femmes en RDC. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guimate Tsongo. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Plus de 5000 combattants issus de groupes armés ont déjà été démobilisés en 2 ans et demi grâce au programme PDDRCS, programme de désarmement, mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. L'annonce a été faite par les coordonnateurs du programme, Jean-Didier Tanga Tita, lors d'un briefing co-animé avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, lundi 9 mars à Kinshasa. Selon les coordonnateurs du programme, 3188 combattants ont été démobilisés en 2005, dont 1546 en Ituri, 838 au Nord Kivu, 653 dans les Tanganyika et 151 entre les Maïndombe et Kinshasa. Jean-Didier Tangatita a également précisé que ces ex-combattants bénéficient d'un accompagnement en santé mentale avant leur réinsertion dans les communautés d'origine. Il en a en outre souligné la collaboration avec la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo sur les questions des droits de l'homme durant le processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Jean-Didier Tanga Tita est au micro de Radio Okapi.
Depuis que nous sommes à la tête de ce programme, on a vu un gouvernement qui, indépendamment de ce qu'il a comme priorité d'ordre sécuritaire et tout ce que vous connaissez comme problème, le gouvernement de notre pays a déployé les moyens conséquents. Et nous avons travaillé 100% pour tout ce qui est désarmement et démobilisation avec les fonds de notre pays. On a réalisé un certain nombre de choses, notamment les désarmements de pratiquement 4875 clients jusqu'à la fin du mois de février, mais nos opérations sont en cours. Nous sommes déjà au-delà de 5000 clients qui ont déjà été traités. Nous intervenons actuellement dans 5 provinces, mais je dirais dans 6 provinces au fait, parce que nous sommes dans la province de l'Ituri, dans le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika. Et depuis la fin de l'année passée, nous sommes opérationnels dans la ville province de Kinshasa, spécifiquement dans la zone de Maluku. Et nous sommes en train d'évoluer vers la zone Maïndombe parce que sur instruction de la hiérarchie, nous intervenons sur la question des Mobondo que nous avons commencé à traiter depuis quelques mois.
Parlons à présent de cette alerte du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme sur les cas des enfants issus du viol. Au moins 887 cas de violences sexuelles ayant affecté 1534 personnes en 2025 ont été documentés par ce bureau. Ces chiffres ont été publiés hier lundi au cours du lancement de la campagne de sensibilisation sur l'esclavage sexuel et enfants issus du viol tenue ici à Kinshasa. À ce sujet, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Umbaï-Kalama, a souligné que les enfants issus du viol portent sur eux le poids des crimes dont ils ne sont pas les premières victimes. Pour les détails, John Chibwabwa.
Cette campagne vise à renforcer la mobilisation autour de la prévention des violences sexuelles, de la protection des victimes et des luttes contre l'impunité. Pour le directeur du BCNUDH en RDC, Patrick Vahar, l'esclavage sexuel ne doit pas être un outil de guerre.
Notre rapport 2025 révèle que les différents groupes armés font usage de l'esclavage sexuel. Ce que c'est des femmes innocentes. Les groupes armés, lors d'un affrontement, envahissent un village, prennent les femmes en otage, en leur menaçant de si jamais elles expliquent ce qui leur est arrivé, eh bien soit on va mettre fin à leur vie.
De son côté, la ministre du Genre, Famille et Enfants indique que l'esclavage sexuel ne devrait pas rester impuni. Micheline Kalama.
La violence sexuelle est un crime de guerre. Aux survivantes et aux survivants, je vais dire ceci. Du fond du cœur, vous n'êtes pas seul. Votre douleur ne sera plus ignorée. Votre dignité n'est pas un privilège, elle est un droit fondamental. Et la justice doit être au rendez-vous de votre espérance.
Le BCNUDH appelle ainsi les autorités à accélérer les poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes, aux groupes armés à cesser les hostilités et à la communauté internationale à renforcer les soutiens financiers pour la prise en charge des victimes.
Selon un communiqué du BCNUDH, toujours parvenu à notre rédaction, les groupes armés M23, CODECO, FDLR ou Azalendo sont responsables de ces violences. Ce même document note aussi l'implication des forces armées, de la police nationale congolaise et des services de sécurité dans cette situation d'insécurité. Une autre alerte dans ce journal, c'est celle de Ocha, qui révèle qu'une faim sévère frappe plus de 85% des ménages dans plusieurs localités situées sur l'axe Mweso-Pinga, notamment à Rugarama et Kalembe. Nous sommes là, dans la province du Nord Kivu. À la base de cette situation, les conflits, les chocs économiques, les catastrophes naturelles, les flambées des prix des aliments. Le point avec David Mugisa.
L'organisation tire la sonnette d'alarme sur l'ampleur de la crise et appelle à une mobilisation urgente afin d'éviter une aggravation de la situation alimentaire dans cette zone. Selon ces rapports, la majorité des ménages présentent une consommation alimentaire jugée pauvre, signe d'une difficulté à accéder régulièrement à une nourriture suffisante et diversifiée. À Rugarama, par exemple, ces taux atteignent 100%, tandis qu'à Kalembe, ils dépassent les 87%. Ces documents de Ocha soulignent également une vulnérabilité plus marquée chez certains groupes, notamment les personnes déplacées internes et les ménages retournés. Près de 95% des ménages déplacés ont une consommation alimentaire pauvre et 80% d'entre eux recourent déjà à des stratégies d'urgence pour survivre. Face à cette situation, les populations adoptent des moyens de survie de plus en plus extrêmes. Plusieurs ménages déclarent emprunter de la nourriture, envoyer certains membres de la famille manger ailleurs ou encore vendre des biens domestiques. D'autres retirent leurs enfants de l'école, réduisent les dépenses de santé ou mendient pour pouvoir se nourrir.
Je le disais en titre, une ambiance particulière règne à Goma en ce mois de mars. Les organisations membres du groupe du travail de lutte contre les violences basées sur les genres ont lancé hier lundi leurs activités du mois des droits des femmes. C'était au stade paralympique de la ville où les femmes ont présenté leurs différents produits dans une foire bien colorée. Sur les stands, des produits des champs en passant par les produits de l'artisanat jusqu'à la petite industrie. Pour ces femmes, cette foire est l'expression de leur courage. Rosalie Zawadi était sur place et nous propose ce reportage.
Juste à l'entrée du stade, ces deux dames préparent des frites aux brochettes. De très bonne humeur, elles expliquent que les femmes de Goma sont dans tous les secteurs pour trouver les moyens de subvenir aux besoins de leur famille. Mais malgré leur courage, la situation est difficile, a dit Maombi Saidi.
Nous essayons différentes activités, mais ça ne marche pas alors que nous avons des enfants. Je suis venu ici avec le maïs à vendre pour 20 000 francs, mais c'est comme si je ne parviendrais pas à tout écouler. Que les autorités nous ramènent la paix pour que nous, femmes vivant avec handicap, nous puissions trouver comment vivre sans aller mendier.
Gladys Mubuya, active dans la défense des droits des femmes en province, a fait les tours des stands.
La foire organisée aujourd'hui à Goma, c'est plus célébrer la résilience de femmes qui se trouvent dans différents coins du Nord Kivu, qui malgré la situation, continuent à montrer leur force, leur courage. Elles travaillent dans l'agriculture, elles font le travail de restaurant, elles font les activités génératrices des revenus.
À côté de la foire, des échanges ont été organisés sur les droits des femmes en Nord Kivu. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Ne perdez pas de vue que nous sommes toujours en plein mois de Ramadan. La province du Maniema est considérée comme le berceau de l'islam en RDC. Pour certains commerçants, cette période représente une bonne opportunité d'affaires. Le jeûne quotidien imposé aux fidèles musulmans de rompre leur abstinence le soir avec un repas léger. Ainsi, les vendeurs et vendeuses des denrées alimentaires de première nécessité profitent de cette demande accrue. Florence Kizalunga s'est rendue dans les marchés et nous propose ce reportage.
Parmi les produits les plus recherchés figurent le banane planté, les manioc et les patates douces, les arachides ainsi que les farines de maïs, de blé et de soja, sans oublier les sucres. C'est ce que confirme Echalou Fatantine, vendeuse au marché.
Nous vendons tout ce qui permet aux musulmans de rompre leur jeûne, comme sucre, soja, farine de maïs. Les mois de Ramadan, c'est pour nous un mois d'affaires. Il y a des changements par rapport à ma façon de vendre. Mais nous constatons que l'argent ne circule pas vraiment parce qu'on voit que plusieurs musulmans se font des dons, mais les autres achètent petit à petit.
Ville est vide. De son côté, Bijou Nyota, qui vend du manioc et des bananes devant la mosquée centrale, confirme cette tendance.
Nous sommes au mois de Ramadan, les femmes les musulmanes achètent des bananes, manioc et bananes plantes.
À noter que malgré la forte demande, les prix restent stables. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Comme vous le savez, l'accès aux produits d'hygiène reste un défi pour de nombreuses femmes détenues dans les prisons. À Bounia, une cinquantaine d'entre elles ont retrouvé le sourire. Elles ont reçu chacune des kits d'hygiène à l'occasion toujours de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars dernier. C'était hier lundi. Une initiative soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population et la MONUSCO pour améliorer leurs conditions de vie en détention. Pour les organisateurs, cette action vise à promouvoir la dignité et le bien-être des femmes privées de liberté, tout en rappelant l'importance du respect de leurs droits fondamentaux. Les détails dans ce reportage signé Jean-Claude Lokidile.
Un seau de 20 litres, un pagne, du savon, une paire de babouches, mais aussi d'autres articles essentiels pour l'hygiène quotidienne. Voilà le contenu des kits distribués aux femmes détenues de la prison centrale de Bounia. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, le milieu carcéral expose particulièrement les femmes et les jeunes filles à plusieurs risques sanitaires. D'où l'importance d'un accompagnement spécifique en matière d'hygiène. Angélique Dikoumé, experte à l'UNFPA Bounia, en charge des violences basées sur le genre.
C'est pas très évident pour elles en milieu carcéral, que leur hygiène puisse être respectée par rapport à l'accès à l'eau, par rapport aux toilettes. Et elles peuvent aussi être susceptibles d'avoir des infections gynécologiques.
Du côté des bénéficiaires, ce geste est accueilli avec beaucoup de soulagement. Une femme détenue explique que les conditions de vie en prison rendent difficile l'accès aux produits d'hygiène menstruelle.
Nous utilisions des vieux pagnes abandonnés que nous lessivions. Cela nous donnait des microbes. Nous disons merci à ceux qui nous ont remis ces dons.
En marge de cette distribution, une séance de sensibilisation a également été organisée. Les échanges ont porté sur l'hygiène personnelle, la gestion de l'hygiène menstruelle, ainsi que la santé physique et mentale en milieu carcéral. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Le mois de la femme continue avec des chiffres qui ne sont pas très bons. La perception de l'évolution des droits des femmes est passée de 67% à 57%, soit une baisse de 10%. Entre 2024 et 2026 en République démocratique du Congo. Ces chiffres ne viennent pas de nous, mais plutôt du rapport du groupe Target présenté hier lundi à Kinshasa devant la presse. Le directeur général de Target SRL, Serge Mombo, attribue cette tendance à la non-application des lois relatives à la défense et à la protection des droits des femmes à travers le pays. Il encourage en même temps les autorités ainsi que les partenaires du gouvernement à faciliter l'accès des femmes aux sources des financements. Serge Mombo au micro de Blaise Ndonga Lamayanda.
Lorsqu'on compare les chiffres de 2026 avec ceux de 2024, on constate plutôt qu'il y a une régression des personnes qui disent que c'est positif. Donc on était à 67% en 2024, là on est à 57%. Donc ça montre qu'il y a une régression et c'est au niveau de tous les indicateurs. Et aussi, ce qu'on a constaté cette année, c'est que ce sentiment-là de régression, ça vient plus au niveau des femmes. Les hommes, les chiffres restent quasiment les mêmes. Il y a moins de femmes qui disent qu'il y a une évolution. C'est là où nous avons dit qu'il faudrait qu'on essaie de faire un effort pour décentraliser les actions parce que ça reste un peu trop cosmétique et que ça reste pour une élite alors que les femmes lambda n'ont pas cette réalité-là. Pour remonter la pente, les lois existent, mais elles doivent être appliquées. Et surtout au niveau des cas de violence, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de situations, je pense qu'on doit faire vraiment un grand effort pour être beaucoup plus sévère et éviter par exemple qu'une personne qui a été accusée de viol et qui se retrouve en macale puisse après revenir. Donc on doit vraiment qu'il y ait une tolérance zéro, notamment surtout pour les cas de violence, pour le cas de mariage forcé, mais également pour les autres aspects, notamment l'accès aux sources de financement.
Notez que le groupe Target recommande par ailleurs aux familles d'investir dans l'éducation des jeunes filles afin de les aider à se défaire des stéréotypes et des complexes d'infériorité au sein de la société.
Actualité internationale.
En réponse à l'affirmation de Donald Trump sur la fin prochaine de la guerre, l'Iran a déclaré mardi 10 mars que des négociations avec les États-Unis n'étaient plus à l'ordre du jour. L'Iran poursuivra ses attaques aussi longtemps que possible, selon le ministre des Affaires étrangères. Au Liban, les Sud et l'Est, fiefs du Hezbollah, ont à nouveau été frappés par Israël dans la nuit de lundi à mardi.
L'invité.
La Journée internationale des droits des femmes, commémorée le 8 mars 2026, est célébrée en RDC sous le thème « Droits garantis, autonomisation durable des femmes et des filles ». À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, souligne que dans de nombreux pays, la loi continue de limiter profondément les droits fondamentaux des femmes. Les intervenants dans le dialogue entre Congolais d'hier lundi ont évalué la lutte pour la promotion des droits des femmes en RDC. On les écoute au micro de Guy Matechongo.
Madame Chantal Faïda Moulenga-Biuma, vous êtes analyste indépendante, vous êtes autrice et cofondatrice de Ouema Asbel, une ONG basée au Nord Kivu. Comment vous évaluez à ces jours les combats que la femme a toujours menés dans ces pays pour la promotion de ses droits?
Merci beaucoup pour la question. J'aimerais rendre un hommage à toutes les femmes congolaises et principalement celles qui vivent dans les provinces affectées par les trois décennies de crise que nous condamnons. J'aimerais aussi rappeler que nous célébrons le 49e anniversaire de la Journée internationale de la femme. 49e, c'est depuis 1977 que l'ONU a décidé d'instaurer cette journée après plusieurs luttes des femmes ouvrières en Occident et même partout en Afrique pour que nous puissions nous arrêter pour évaluer les avancées et planifier les perspectives d'autres luttes. Et pour ce qui concerne la RDC, nous devons analyser cela au niveau du pouvoir, des ressources et des opportunités. Est-ce que les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes en termes d'accès, par exemple, à l'emploi et principalement à la santé? Nous sommes dans une nation qui a connu beaucoup de crises et aujourd'hui, pour la seule province du Nord Kivu, nous avons 2,5 millions de déplacés internes avec plus de 51% de femmes. Et nous savons combien la femme, c'est elle la pivote de la survie dans les ménages. Et quand elle est dans une situation de déplacement, la précarité s'accentue davantage. Et même les ONG humanitaires enseignent que les femmes n'ont pas accès aux structures de santé, les femmes déplacées, et donc elles accouchent dans des conditions difficiles.
Madame Annie Maudy, vous êtes activiste des droits des femmes. Vous également, comment vous évaluez la lutte pour la promotion des droits des femmes en RDC?
J'ai souvent répété ceci, la femme et la jeune fille congolaise est parmi les mieux protégées sur le plan normatif dans le monde, parce qu'aujourd'hui, on peut encore trouver certains États aux États-Unis qui gardent le mariage précoce comme légal. On trouve la situation où les enfants ne peuvent pas prendre la nationalité par leur mère. On a des pays où les femmes ne peuvent pas acheter la terre, par exemple, et ça, c'est leur cadre normatif. Par contre, pour la femme et la jeune fille congolaise, comme je l'ai dit, ça, ce n'est pas une question qui se pose, même s'il y a encore quelques incohérences et contradictions parfois dans notre cadre légal, ça, il faut quand même les souligner. Je vais donner un exemple. Notre code pénal, par exemple, aujourd'hui criminalise l'utilisation de tout objet tendant à empêcher la fécondation. Alors qu'en même temps, nous avons au sein du ministère de la Santé un programme national de la santé de la reproduction qui, lui, fait la promotion de l'utilisation des préservatifs. Nous avons encore une fois dans les codes pénals l'accès à l'avortement sécurisé qui est prohibé, qui est interdit sous quelque forme que ce soit, alors que même le Parlement a voté une loi autorisant la RDC à ratifier le protocole de Maputo sans réserve. Et aujourd'hui, le protocole de Maputo est publié au journal officiel, mais le code pénal, lui, il est resté intact. La femme est victime de ces incohérences et les contradictions. Même alors, lorsque nous parlons de l'autorisation maritale pour travailler qui serait bannie dans le code du travail, mais quand vous revenez dans le code de la famille, il reste quand même qu'il faut se concerter avec son mari. Si vous ne trouvez pas d'accord, vous allez au conseil de famille, de manière pratique. Vous voyez quel conseil de famille qui donnerait raison à l'épouse. Donc, d'une certaine manière, comme je l'ai dit, nous sommes assez bien protégés sur le plan légal, mais quand même, il reste plusieurs incohérences. Donc, à un moment donné, les défis, c'est aussi d'évaluer notre cadre légal, faire la lecture genre.
Madame Faïda Mwangiloua, membre de la société civile, vous êtes experte en genre. Et qu'est-ce qui doit encore être fait en termes de politique nationale pour promouvoir davantage les droits des femmes dans ces pays?
Ce qu'il faut faire à mon niveau, parce que l'éducation, c'est quelque chose de formidable. Il faut voir comment développer des politiques sectorielles genre. Par exemple, au niveau de l'éducation nationale. À un moment, on parlait, on a même travaillé sur cette stratégie genre au niveau du secteur de l'éducation. Il faut y mettre les moyens. Même chose pour la stratégie genre des domaines comme l'agriculture, comme l'enseignement supérieur universitaire, comme les finances. Donc, dans tous les secteurs de la vie nationale, développer une politique sectorielle genre. Ça va aider l'ensemble des institutions à s'intéresser à ces questions.
Vous pouvez continuer à suivre Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques du Radio Capi, Facebook, X, YouTube. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du Journal du Matin, coordonnée et supervisée par Lievin Mbuinga Vubu et mise en onde par André Mongo. Merci et à plus.